Mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 28 mai 2026. Aujourd'hui, on va aller faire un tour en Turquie avec un nouveau coup de force de la part de Recep Tayyip Erdogan qui évince son principal opposant. On va revenir sur l'affaire de la manifestation de Sainte-Soline et de la répression policière très importante qu'il y a eu avec des nouveaux éléments qui viennent d'apparaître sur l'auteur notamment de deux tirs qui ont failli coûter la vie à des participants. On va parler du projet de loi Riposte qui vient d'être adopté au Sénat, d'affaires aussi de procès Bayon, en tout cas de tentatives d'intimidation contre Sophie Binet et secrétaire général de la CGT. Par rapport à des critiques sur la politique du groupe Tefal, donc dans l'affaire de la pollution au Tifas, on va parler des ZFE aussi, les zones de faible émission qui finalement vont revenir, ainsi que certaines règles du zéro artificialisation nette. Et puis voilà, ça fait déjà pas mal tout ça. Mais avant ça, bien évidemment, de la météo, ou plutôt du climat, car ce n'est pas la même chose. Et cette vague de chaleur dans laquelle on est en plein, on est plongé en plein, qui touche toute la France, hein, jusqu'à 39 degrés attendus. Cette vague de chaleur qui s'intensifie et qui s'étend. C'est une vague de chaleur inédite, hein, de la part de l'avis de tous les météorologues. La baisse des températures, si elle arrive, ne devrait intervenir qu'à partir de ce dimanche, au prix de quelques orages. Hier, on n'était pas loin déjà d'en voir éclater sur le secteur ici du Piémont-Sévenol. C'est une vague de chaleur précoce, hein, puisqu'on n'est toujours pas en été, qui suffoque donc la France et le reste de l'Europe et du monde depuis plusieurs jours. Les proportions qu'elle prend sont à tout moment catastrophiques. Hein. 352 stations météorologiques, surtout dans l'ouest du pays, ont ainsi enregistré leur température la plus élevée jamais enregistrée pour un mois de mai, sachant que les relevés météo remontent plus ou moins à 100 ans, jusqu'à 37,1 degrés près de Osgore dans les Landes, hein, c'est le record national mensuel. Au Royaume-Uni, les températures aussi sont excessives avec un record national pour le mois de mai, qui a été établi à 34,8 degrés à Kew Gardens. Pire, je vous le disais, l'épisode de très forte chaleur va encore s'étendre et s'aggraver. Donc c'était déjà dès ce mardi que les Côtes d'Armor ont rejoint les 8 départements en alerte orange canicule, donc pour tout ce qui est Bretagne et une partie de l'ouest de la France. Hier, à partir de 12h, la vigilance s'étendait aux Deux-Sèvres, à la Charente-Maritime et à la Gironde. Ce sont donc 13 départements qui s'afficheront alerte orange. D'après Météo France, ces extrêmes thermiques donc vont se décaler d'aujourd'hui vers le sud et l'est. Donc là, ça arrive chez nous, notamment donc le Languedoc, avec 38 à 39 degrés attendus. La baisse plus généralisée des températures n'interviendra a priori qu'à partir de ce dimanche. Le phénomène, en tout cas, est lié à ce qu'on appelle un dôme de chaleur. Un dôme de chaleur qui va bloquer donc de l'air chaud, une bulle d'air chaud venue d'Afrique du Nord. C'est un épisode bien évidemment exceptionnel, historique et inédit, explique un climatologue à Météo France, Mathieu Sorel. Tous les superlatifs sont possibles pour décrire cet épisode historique que nous connaissons actuellement. Voilà, même s'il est connu depuis des années que le changement climatique effectivement rend ces vagues de chaleur plus fréquentes et intenses. Et ce qui est aussi plus fréquent et intense, eh ben, c'est la puissance du contre-discours, hein, la remise en cause du réchauffement climatique, en tout cas des incidences humaines dedans. Visiblement, ça embête de se dire que notre niveau d'industrialisation globale est en partie responsable de tout ça, parce qu'une des seules solutions possibles, ça serait à tout moins de décarboner et certainement plus en tout cas de réduire tout ça, voire d'aller vers ce que certains appellent la décroissance. D'ailleurs, j'ai remarqué une petite blague sur les réseaux sociaux, il y a une pétition qui circule, qui vous invite à signer pour couper la climatisation sur le plateau de CNews. Je vous la lis quand même, parce qu'elle m'a arraché un petit sourire. Nous, citoyens attachés à la logique élémentaire, adressons cette pétition à la direction de CNews et son éditorialiste vedette Pascal Praud. Depuis des années, celui-ci use de son temps d'antenne pour relativiser, minimiser, voire railler les alertes des climatologues. Le réchauffement climatique serait, selon lui, exagéré, idéologisé, un fantasme des wokistes, écolos, islamo-gauchistes. Mais alors pourquoi la clim sur le plateau de CNews ? Il demande donc dans la pétition, par souci de cohérence intellectuelle, la mise hors service immédiate et définitive de la clim dans les locaux de CNews, plus particulièrement pour le plateau de l'heure des pros. Si le climat ne se dérègle pas, 38 degrés dès le printemps à Paris ne constituent donc aucune menace. Monsieur Pro devrait pouvoir débattre des dérives de la gauche dans une saine moiteur estivale sans le moindre inconfort.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
Allez, trèfle de plaisanterie, comme dit l'autre. On part en Turquie où Erdogan, le président, fait expulser son opposant de la tête de son parti. Donc c'était ce dimanche, des images assez incroyables. La police anti-émeute a fait irruption donc, au siège du CHP, CHP en turc, donc c'est le Parti Républicain du Peuple, qui est le principal parti opposant à l'AKP, celui donc d'Erdogan. C'est donc dans ses locaux à Ankara que la police est entrée. Le CHP, c'est la plus ancienne formation politique du pays, et donc cette opération policière a visé à expulser de leur bureau ses dirigeants élus, donc notamment le chef. L'image est stupéfiante, choquante pour beaucoup de Turcs. Le siège du CHP a donc été investi par la force de police anti-émeute. À l'intérieur de ce bâtiment, les militants ont fui les gaz lacrymogènes. On a pu voir un député en pleurs. Le mobilier retourné, des portes et des vitres brisées, un vrai raid, décrit donc la confusion totale. Au 12e étage de l'immeuble, barricadé dans son bureau, donc celui que les policiers sont venus chercher, il s'appelle Özgür Özel. Âgé de 54 ans, c'était donc le dirigeant du CHP jusqu'à cette heure et cette récente décision de justice. Il est donc déchu de son poste. Les policiers sont venus le sortir sur ordre des autorités, mais à la demande de son prédécesseur quand même à la tête du parti, qui va donc se retrouver officiellement de nouveau le chef du CHP. Il s'appelle Kemal Kılıçdaroğlu. Il a donc été réinstitué par la justice, sachant que la justice est quand même principalement opéré par des proches d'Erdogan, donc une décision hautement politique. Et en effet, c'est une nouvelle tentative pour le président turc d'écarter ses potentiels rivaux aux prochaines présidentielles. Celle-ci est prévue en mai 2028, mais elle a toutes les chances d'être anticipée, de faire des présidentielles anticipées. Le tour de passe-passe permettrait notamment, entre autres, à M. Erdogan de briguer un troisième mandat derrière, puisqu'il est arrivé au pouvoir en 2003, et normalement il est arrivé au terme de ce que la Constitution lui permet. La rapidité et la gravité de ces récentes initiatives laissent penser que les élections pourraient se tenir encore plus tôt qu'imaginé, explique un chercheur, une chercheuse, qui est cofondatrice de l'Institut de Recherche Politique d'Istanbul. Et elle rappelle aussi que ça montre que le CHP était et demeure encore une menace sérieuse pour Erdogan. Donc en mettant un ancien chef du parti qui a été depuis pas mal désavoué, notamment qui s'est rapproché d'Erdogan, en le remettant à la tête du parti d'opposition, eh bien, l'effet est de créer le chaos donc, dans cette même opposition, de diviser l'opposition, mais aussi de paralyser donc, ce parti, le seul qui semble encore disposer de capacités d'organisation, d'une force électorale et d'une légitimité politique pour constituer donc une alternative au gouvernement actuel. En effet, le CHP, c'est actuellement le plus vieux parti de Turquie, qui était historiquement lié à tout un mouvement et notamment à son fondateur, Mustafa Kemal. La décision qui a été prise pour justement permettre cette opération policière, elle a été prise par le tribunal d'Ankara. Et elle remet donc en selle le rival du président déchu, donc qui s'appelle Kemal Kılıçdaroğlu, ce qui provoque une crise de légitimité en interne qui risque de ne pas s'effacer très rapidement. Cette décision judiciaire, je vous fais un espèce de résumé de ce que j'ai compris, elle s'est fondée donc sur des allégations de violation de procédure et d'achat de voix lors du congrès de novembre 2023, donc des accusations contre le CHP. Celui-ci, évidemment, les a constamment et catégoriquement rejetées en disant que c'était des fabrications politiques pour les déstabiliser. Et je vous le rappelle, la décision de justice a été prise par des magistrats qui sont très proches du parti au pouvoir. En tout cas, pour ce nouveau coup de force, qui ressemble fort à un coup d'État, même s'il n'y a pas eu à proprement parler de renversement de pouvoir. Du point de vue d'Erdogan, si les élections présidentielles étaient anticipées, ça serait avantageux puisque le CHP est aujourd'hui contraint d'entrer dans un processus en marche dispersé, coupé en deux avec plus d'hommes forts à la tête de celui-ci. Il est juridiquement entravé et vidé de l'intérieur, explique toujours cette chercheuse en politique. Et je vous le disais, la constitution turque limite à deux mandats la possibilité pour un président de la République donc, de se représenter sur 5 ans. Monsieur Erdogan, donc, grâce à ce petit coup, peut essayer de déjouer la constitution en avançant les élections avant la fin du mandat en cours. Si on regarde justement les résultats des présidentielles tels que les instituts de sondage les prévoyaient, eh bien justement, ils montraient une hausse du CHP depuis notamment des manifestations qui ont suivi. Il y a un peu plus d'un an, l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, qui était lui aussi le principal opposant à Erdogan. Il l'a depuis mis en prison, et c'est le successeur qui vient d'être à nouveau, destitué de son rôle de chef du parti. Candidat désigné de son parti à la présidence, donc suite au raz-de-marée du CHP au municipal en 2024, Ekrem İmamoğlu était le plus puissant opposant chef de l'État. Et suite à son arrestation, eh bien c'est M. Özel qui s'est retrouvé à la tête du parti et donc l'homme fort un petit peu qui pouvait tenir tête à Erdogan pour les prochaines présidentielles. En tout cas, tout cela semble, d'après les mots de justement Özgür Özel, qui vient d'être destitué et qui a été interviewé, eh bien un aveu de faiblesse de la part d'Erdogan. Il dit « Erdogan a paniqué et il dénonce un massacre de la démocratie ». Tout comme il a jeté en prison le candidat qui pouvait le battre, il veut désormais décider qui seront ses rivaux et qui dirigera les partis d'opposition. C'est ainsi qu'il veut remporter la prochaine élection. Özel, donc le chef du CHP déchu, n'a aujourd'hui que deux options. Soit il résiste en s'ancrant au siège du parti et en faisant appel juridiquement de cette décision, ou bien carrément de se lancer avec un nouveau parti, une nouvelle formation politique. Il convient quand même de noter que des dossiers ont déjà été soumis au Parlement pour lever l'immunité de 8 députés CHP, qui sont pour le moment couverts par l'immunité parlementaire. Et à la clé, s'ils étaient jugés coupables dans les affaires dont je vous ai parlé, ils pourraient être possiblement interdits de vie politique. Donc il y a un vrai coup de force qui se fait au niveau juridique, d'où l'importance aussi, quand un pouvoir arrive en place, de s'assurer les faveurs des hautes autorités judiciaires. Voici quelques commentaires, notamment par Gönültol, qui fait partie de l'Institut du Moyen-Orient, qui est basé à Washington, sur cette affaire. « Les autocrates contemporains, dit-il, veulent préserver la façade de la démocratie, donc ils ne suppriment pas les élections, mais qu'importe les urnes, si vous pouvez choisir vos propres adversaires et emprisonner tous ceux qui pourraient vous battre. » Et quant au nouveau chef du CHP, donc celui qui se retrouve de nouveau chef et donc opposant principal, au cours de l'élection présidentielle de 2023, donc le fameux Kılıçdaroğlu, il a été défait par Erdogan, il a perdu. Visiblement, il a peu de charisme de près de tous les observateurs. Et donc, c'est assurément le rival préféré de l'AKP et d'Erdogan. Voici un autre extrait d'un billet sur Mediapart qui a été publié par Yavuz Baydar sur cette affaire. Appelons les choses par leur nom. L'achèvement d'un auto-coup d'État, une nouvelle phase de la prise de pouvoir implacable d'Erdogan. Non pas la prise de pouvoir spectaculaire et soudaine que l'histoire associe habituellement au terme coup d'État, mais quelque chose de plus insidieux, un étranglement constitutionnel au ralenti, orchestré par des tribunaux capturés, des institutions vidées de leur substance et l'instrumentalisation du droit lui-même contre l'État de droit.
Alors, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de fantomas.
On revient maintenant sur l'affaire de Sainte-Soline, la grosse manifestation de Sainte-Soline de mars 2023. Un nouvel élément majeur vient de ressortir dans ce dossier grâce au travail des journaux Mediapart et Libération, et pas ceux de la justice, notamment de l'IGPN. Après plusieurs mois d'analyse et plus de 150 heures d'images vidéo produites par les gendarmes et les journalistes, donc les images embarquées sur les caméras des gendarmes et aussi celles des journalistes qui étaient présents le jour de cette manifestation, les deux médias donc, ont révélé conjointement il y a deux jours l'origine précise du tir de grenade qui a grièvement blessé Serge Dutheil-Graziani. C'était une des personnes qui est sortie dans le coma de cette manifestation lors donc, de la mobilisation à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. un tir tendu de grenade lacrymo dans la tête. C'est ce qu'avaient d'ailleurs souligné les conclusions d'une expertise médico-légale, suite à laquelle le militant avait été donc grièvement blessé, plongé dans le coma, ce qui a entraîné encore aujourd'hui de lourdes séquelles, s'il a échappé à la mort de peu. Aucune investigation supplémentaire ne peut permettre d'éclaircir les circonstances de ces tirs. C'est ce que concluait le parquet de Rennes, qui avait donc classé l'enquête sans suite. Une enquête pour violence par personne dépositaire de l'autorité publique et non-assistance à personne en danger, puisque les secours avaient été empêchés aussi d'arriver sur ce champ pour venir à la rescousse de nombreuses personnes blessées. Il y avait quand même eu 4 blessés graves cette journée-là, donc le Serge Duteuil-Graziani dont je vous parle, un autre qui s'appelle Michael Boulet, et ensuite Alix et Olivier. Une longue enquête vidéo donc, qui a été publiée il y a 2 jours par les 2 journaux, en étudiant les angles de vue pour essayer de recenser chaque usage d'armes, et ça a donc permis d'identifier le tir de lance-grenade Cougar qui a blessé donc ce militant. Seul un tir en provenance d'un véhicule blindé de gendarmerie peut donc l'avoir atteint, c'est ce que affirment les 2 médias. Ce 25 mars 2023, près de 5000 grenades ont été tirées dans l'après-midi, mais donc au moment du tir qui a blessé Serge, qui a été filmé sur 39 vidéos quand même, il est possible de voir sur l'une d'elles donc cette fameuse grenade lacrymogène qui part avec un angle en dessous de 10 degrés, donc un tir tendu, alors que normalement avec ces armes il est interdit de tirer en dessous de 45 degrés. On doit faire normalement des tirs en cloche, puisque ce sont des grenades par exemple avec des grenades de désencerclement ou des grenades lacrymogènes. Elles ne sont pas faites pour tirer dans la tête des manifestants. Donc ce tir à 10 degrés a été effectué en haut de la tourelle d'un véhicule blindé à roues de la gendarmerie, c'est les VBRG, leur petit acronyme, et ils ont même réussi, donc en sachant quel était le char, à identifier l'auteur présumé du tir, donc le nom du gendarme en question. Ce gendarme avait d'ailleurs été auditionné et reconnu avoir trop enchaîné les tirs ce jour-là pour pouvoir maîtriser leurs conséquences. Le tout alors que la hiérarchie appelait justement par les talkie-walkie et des ordres donnés sur le terrain à des tirs tendus, ce qui est donc interdit, je vous le rappelle. À l'époque, ce gendarme avait été auditionné comme simple témoin dans l'affaire qui a été classée sans suite. Il avait pourtant assuré que ces tirs étaient effectués à l'angle réglementaire, hein, donc en l'air à 45 degrés, et il s'était dit incapable de dire s'il avait blessé quelqu'un ou pas. Eh bien, désormais, on est capable de dire qu'il a failli tuer quelqu'un avec un usage non réglementaire de son arme et qu'il a donc menti pour cacher son crime, ce qui lui fait courir le risque de passer de témoin assisté dans l'affaire à mise en examen. Interrogé, en tout cas, sur ces nouvelles révélations dans l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a botté en touche face aux questions des députés. Il a maintenu sa position et soutenu les gendarmes qui ont, selon lui, fait donc une réponse appropriée face à ce qu'il appelait des violences extrêmes des manifestants, notamment des jets de projectiles. Pourtant, ce n'est pas qu'à Sainte-Soline que des cas tels que celui-ci se produisent. Hein. Les violences policières sont récurrentes ces dernières années et fortement documentées. Par exemple, lors du mouvement des Gilets jaunes, une personne visée par la police est morte. 613 autres ont été blessés, dont 238 à la tête, 23 personnes éborgnées et 5 ont eu une main arrachée. Ça, c'est un décompte du journaliste David Dufresne.
Par les grands bols, tout ça, mais c'était écœurant, la fin.
On reste dans les instances gouvernementales avec le Sénat qui vient d'adopter ce projet de loi qui s'appelle Riposte. Un projet de loi, donc comme son nom le laisse comprendre, pour durcir la lutte contre les free parties, les rodéos, la consommation de protoxyde d'azote et les violences urbaines. Voilà, ils ont tout mis dans le même sac. Les sénateurs ont adopté à 243 voix contre 33 ce texte de loi porté encore une fois par Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur. Lui présente donc ce projet de loi Riposte comme un choc d'autorité et d'efficacité face aux méfaits et aux nuisances du quotidien. Pour les votants, la droite et les centristes qui dominent le Sénat ont soutenu très largement cette initiative. Les socialistes se sont abstenus, les écologistes et les communistes s'y sont opposés. L'ensemble du projet avait été examiné donc la semaine dernière dans l'Assemblée. Le volume d'ailleurs de ce projet de loi s'était nettement accru à l'initiative des sénateurs et du gouvernement qui ont amendé. L'exécutif entend désormais inscrire ce projet de loi très dense à l'Assemblée nationale avant la suspension estivale des travaux parlementaires qui se passe en général autour de la mi-juillet. Mais le calendrier reste encore incertain en raison de beaucoup d'un embouteillage de textes, hein, beaucoup de textes à étudier, qui attendent leur examen au Palais Bourbon, où l'absence de majorité complique régulièrement le sort des projets gouvernementaux. D'autant qu'il faudra dégager beaucoup de temps pour ce texte qui, vous l'avez compris, est très éclectique, hein, ça parle de choses très différentes, avec quand même une batterie de mesures de répression pour réprimer plus durement et plus efficacement de nombreux troubles à l'ordre public. On revient évidemment sur l'organisation et la participation des free parties illégales, qui dans ce texte de loi va être plus sévèrement sanctionné, avec notamment prévu une peine de 6 mois de prison pour les participants. Ouais, les participants qui vont en free party peuvent avoir une peine de 6 mois de prison. Les organisateurs, eux, 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. D'un autre côté, un peu moins sensible, on va dire, en tout cas qui fait plus consensus, un volet est prévu pour tenter de lutter contre les dangers du protoxyde d'azote, hein, en tout cas les usages récréatifs de ces bonbonnes bleues que vous avez certainement vu joncher des trottoirs ou des parkings, voire même dans les bartasses. Le protoxyde d'azote, c'est un gaz hilarant dont les effets inquiètent, notamment pour la sécurité routière. Problème, il est en vente libre puisqu'il est notamment utilisé, je crois, dans les bonbonnes pour faire de la chantilly, pas mal de choses comme ça. C'est un gaz assez utile dans beaucoup de secteurs artisanaux ou industriels. Plusieurs délits ont été créés avec ce projet de loi riposte pour sanctionner les consommateurs qui vont encourir 1 an de prison et 3750 euros d'amende. D'ailleurs, le Sénat s'est positionné en faveur de l'interdiction totale de la vente de ce produit aux particuliers, mais je pense que c'est un peu compliqué à mettre en place et donc le gouvernement n'a pas encore été convaincu par cette idée.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Et sans piface, s'il vous plaît, le café. Alors, on va revenir maintenant sur cette affaire de procès pour encore des, on va dire, autour de la liberté d'expression et la liberté syndicale aussi, puisque ça concerne Sophie Binet, qui est secrétaire générale de la CGT. Elle expliquait ce lundi, sur le plateau des 4 vérités de Télématin à France 2, qu'elle était désormais sous l'objet d'une mise en examen pour diffamation, et qui vient de la part de l'entreprise Tefal. Entreprise Tefal qui a porté plainte donc contre Sophie Binet en lui reprochant d'avoir évoqué la violente répression syndicale que le groupe donc aurait exercée contre une syndicaliste de son entreprise. C'était en décembre dernier. Sophie de Menton, qui est à la tête du mouvement patronal Éthique, aussi qui avait déposé plainte contre Sophie Binet pour injure publique. Elle était visiblement un peu chagrinée avec l'usage des mots qu'avait fait la secrétaire générale de la CGT. Elle avait dit que les patrons qui faisaient un chantage à la délocalisation sur leurs employés étaient des rats quittant le navire. Vous vous rappelez, Tefal était menacée de fermeture à cause de l'interdiction des PFAS qui met en péril donc la chaîne de fabrication du Teflon. Cette fois, donc, ça vient de la société Tefal que cette plainte est déposée, donc une seconde mise en examen pour Sophie Binet, pour diffamation. C'est ce qu'elle a annoncé, je vous le disais, ce lundi à la télé. Alors, pour les faits, Sophie Binet avait évoqué en septembre dernier à la fête de l'UMA, fête de l'humanité, la violente répression syndicale, ça ce sont les termes qui chagrinent, une violente répression syndicale qui avait touché Ouria Belaziz, qui est coordinatrice CGT, donc du groupe SEB, à qui appartient Tefal. Elle a été en effet sanctionnée par son employeur, puisqu'elle avait osé prendre la parole sur la nocivité des PFAS, des polluants éternels. Et parce que la CGT est assez active dans ce combat qui touche quand même beaucoup la santé des travailleurs en premier et celle des consommateurs ensuite. La CGT alerte sur la dangerosité de ces PFAS et la sanction qu'aurait reçue donc cette salariée et la CGT, devra être contestée devant les prud'hommes le 4 juin prochain. En attendant, donc c'est dans ce cadre-là que Sophie Binet avait commenté l'affaire. D'ailleurs, elle a été relancée par le journaliste télé là ce lundi dans le Télématin, et elle a maintenu ses déclarations en confirmant tout à fait ce qu'elle avait dit. « J'assume mes propos, ils sont confirmés par les faits. » Et elle a d'ailleurs ajouté « Par cette procédure, donc la plainte, Tefal confirme l'ampleur de la répression syndicale et qu'elle essaye de bâillonner les syndicalistes qui s'expriment sur les conditions de travail et l'impact environnemental de ces productions. » C'est très grave, deux mises en examen en 6 mois, c'est un signal d'ensemble, c'est la quasi-totalité des syndicalistes qui pourraient être mis en examen sur cette base. Alerte-t-elle, elle demande donc aux politiques une loi pour protéger la liberté d'expression et la liberté syndicale aujourd'hui en danger. On ne peut pas nous museler, a-t-elle prévenu. Et d'ailleurs, la CGT en profite pour rappeler un chiffre éloquent dans un communiqué qu'elle a fait paraître dans la foulée. Plus de 1000 militants CGT font aujourd'hui l'objet de poursuites judiciaires ou patronales dans le cadre de leur mandat syndical. Allez, un dernier tour dans les instances gouvernementales, et c'est le Conseil constitutionnel, le Conseil des sages comme on l'appelle, qui vient de rendre sa décision sur la loi de simplification de la vie économique. Eh bien, il a censuré de cette fameuse loi des dispositions qui permettaient de faire sauter les ZFE et qui assouplissaient aussi beaucoup le zéro artificialisation nette, donc des mesures écologiques. Les sages de la rue de Montpensier ont donc censuré, il y a une semaine, le 21 mai, la suppression des zones à faible émission et les dérogations au principe zéro artificialisation nette qui avaient été rajoutées dans cette loi, alors que le texte était initialement prévu pour simplifier la vie économique, en gros la vie des PME et des TPE, donc petites, moyennes entreprises et toutes petites entreprises, une loi de simplification de la vie économique, et ils avaient rajouté là-dedans des ZFE, etc. Et visiblement, le Conseil constitutionnel a trouvé que c'était un petit peu hors sujet. Je rappelle quand même que ces ZFE, donc les zones à faible émission, ont été instaurées en 2019, puis étendues en 2021. Elles visent à limiter la pollution de l'air en restreignant la circulation des véhicules les plus polluants, selon l'attribution d'une vignette critère. Le dispositif est encore contesté, hein, même parmi ceux d'ailleurs qui voulaient le voir mis en place. Ceux-ci dénoncent en effet un accompagnement insuffisant pour les ménages modestes contraints de changer de véhicule, et sont compris là-dedans tous les artisans, etc., qui doivent se rendre en ville, souvent pour travailler, et ça aurait effectivement fortement compliqué cette action. Mais là encore, il suffirait peut-être de donner les moyens pour que les gens puissent changer de véhicule. Quant au zéro artificialisation net, donc ZAN, c'est l'objectif qui est destiné à limiter tout ce qui est artificialisation, c'est-à-dire en gros le bétonnage des sols, et avec un objectif pour 2050 d'arriver à zéro en France pour 2050. Donc, c'est-à-dire dès qu'on coule un parking, il faut en gros enlever du béton ailleurs pour maintenir un couvert au moins végétal suffisant, ce qui permet de régler pas mal de problèmes pour l'absorption des eaux de pluie, pour les problèmes de chaleur, etc., etc. Donc une mesure plutôt de bon sens aussi. Alors comment est-ce qu'ils se sont retrouvés là-dedans, ces deux dispositions ? Eh bien, ce sont les Républicains et le RN qui avaient profité d'un article sur l'implantation des centres de données, donc les data centers, et ils avaient introduit donc un assouplissement des ZAN qui pouvait permettre aux collectivités de dépasser de 20% leur quota de surface aménageable. Donc voilà, ça a sauté. Et au total, le Conseil constitutionnel a quand même censuré 25 articles ou parties d'articles de la loi dans cette espèce de gros paquet qui est arrivé sur leur bureau. La décision, elle concerne d'ailleurs principalement des dispositions qui ont été rajoutées au cours de ce qu'on appelle la navette parlementaire. Ces moments où les textes de loi arrivent, sont discutés, rechangés, rediscutés, etc., qui font des allers-retours Sénat-Assemblée. Et des fois, c'est un peu des espèces soit de baudruches complètement vides qui finissent par être votées, soit des trucs un peu à la Frankenstein qui partent un petit peu dans tous les sens. Le reste du texte, d'ailleurs, a été déclaré conforme à la Constitution, notamment plusieurs mesures relatives à l'implantation des projets industriels ou des centres de données. Ça, par contre, le gouvernement est toujours OK pour qu'on puisse continuer à pousser là-dessus. Et avec la nouvelle loi de simplification aussi pour tout ce qui est militaire, je vous le disais, ça va rajouter encore une couche. En tout cas, la décision du Conseil constitutionnel rappelle les conditions justement qui encadrent les droits d'amendement pendant les procédures législatives. Ils essaient un petit peu de resserrer la vis sur la manière dont sont faites les lois aujourd'hui. Et le Conseil a relevé que les dispositions qu'ils avaient censurées avaient été introduites sans lien suffisant avec le texte initial, et que d'ailleurs ça avait été souligné pendant les débats parlementaires. Les censures ainsi donc vont surtout s'appuyer au niveau de... Enfin, les censures qu'ils ont opérées se justifient principalement donc sur le respect des règles de procédure qui sont pour l'instant encore prévues par la Constitution.
Audi, panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Allez, une petite bonne nouvelle, on va dire, un peu de répit pour le poumon vert de la planète. En effet, les chiffres de la déforestation en Amazonie brésilienne sont tombés et l'an dernier, elle a atteint son plus bas niveau depuis 2019. Donc un petit signe d'inflexion en termes de politique. La surface déboisée dans tout le pays, donc au Brésil, est passée pour la première fois depuis longtemps sous le million d'hectares. C'est un rapport qui vient d'être rendu public hier par le réseau de surveillance de référence qui s'appelle MAP Biomasse. Plus précisément, pour les chiffres, ce sont près de 985 000 hectares qui ont été déboisés en 2025. C'est quand même pas mal, mais ça fait presque 21% de moins par rapport à l'année d'avant. Donc il y a clairement un infléchissement de la politique, mais ça reste quand même 5 arbres coupés toutes les secondes en Amazonie, hein, en ce moment où on vous parle. Et plus ou moins sur une année, ça représente le département des Landes, en gros, qui se fait déforester. 99% de la surface défrichée en 2025, d'ailleurs, l'a été à cause de l'expansion agricole et l'explosion, notamment, des exportations de tous ces végétaux qui alimentent aussi une partie de l'agriculture française. On peut parler, par exemple, du soja ou de l'huile de palme. Ces signaux, malgré tout, donc, sont encourageants et grâce à un renforcement des contrôles sur place, donc de respect de la loi et aussi des sanctions qui ont été réappliquées avec la présidence de Lula, qui est de nouveau à la tête du pays. C'est en tout cas l'analyse que font les experts de ce réseau. En effet, Lula, l'actuel chef de l'État du Brésil, entend briquer un second mandat à l'automne. Et d'ailleurs, il compte bien s'appuyer dans sa campagne sur ses bons résultats environnementaux. Et l'article termine en rappelant qu'il y a urgence à stopper le déboisement de la forêt qui pourrait, en cas d'inaction climatique, en grande partie disparaître. L'Amazonie fait partie des composantes cruciales du système climatique terrestre. Ça ne concerne pas que le Brésil. C'est un des gros poumons, on le dit. Et ils sont menacés de franchir un point de bascule, je vous en ai déjà parlé, ce qui ne ferait qu'aggraver encore la catastrophe.
Je vous annonce la fin du monde. Ah, tout le monde va périr.
Encore vous?
Les survivants mourront de faim et de froid. Ils ont la peste et le choléra.
Voyons, monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux.
Bon, le froid, finalement, on en voudrait bien aujourd'hui, mais... En tout cas, il est 13h03, c'est fini pour les nouvelles du monde pour aujourd'hui et pour cette semaine. On se donne rendez-vous, du coup, mardi prochain, et d'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein, les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué... Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.